dans nos systèmes, à nous, dans notre mode d'élevage, moi je trouve qu'on colle vraiment au système de la nature.
Il y en a qui vont peut-être avoir la sensation d'être connectés avec la nature, avec ce qu'ils appellent nature, alors qu'ils sont de passage en fait, et ils vont même souvent essayer d'avoir le moins d'influence possible sur ce qui se passe.
Parce que nous on tisse, c'est comme si dans nos activités on tisse quelque chose.
Millau se situe au cœur d'un paysage façonné par l'agropastoralisme. Une pratique d'élevage toujours actuelle, entre tradition et modernité. En lien avec sa collection de mégisseries et de ganteries, le musée de Millau et des Grands Causses, le MUMIG, organisait du 7 au 10 décembre 2023 les rendez-vous des filières agropastorales. Au programme, l'exposition du musée épidermique des causses au gant augmentée d'une projection débat, de visites de fermes, d'une table ronde rassemblant acteurs et institutions et d'une conférence de l'anthropologue Charles Stepanov.
Donc cette prog-là, culturelle, elle s'inscrit dans un cycle de rencontres.
Katia Fersing, directrice du MUMIG.
Autour de l'agropastoralisme et en lien avec la collection Cuirs et Peaux qui est présentée au musée et également l'exposition temporaire épidermique des causses au gant. À travers laquelle nous proposons de réenvisager la collection Cuirs et Peaux, donc, à l'aune du temps présent. Nous avons assisté à la projection du film « Être vivant » réalisé par Hélène Pinault et Valérie Bognol, en collaboration étroite avec un collectif d'éleveurs du CIVAM Empreinte, dont font partie par exemple Morgane Blanc et Patrick Maillet, éleveurs et éleveuses, et Marion, bergère et d'autres aussi.
Enfin, quand je soigne une brebis, si je la soie par exemple, bah, je vais la couvrir de tout mon corps, avoir le plus de points de contact possible en fait. Ça marche super bien, ça la calme.
Waouh, bah c'est ça que je veux faire, c'est là que j'ai envie d'être et c'est là que je me sens bien.
Un film qui évoque avec justesse et sensibilité les questions que se posent aujourd'hui certains éleveurs ou bergers ou bergères par rapport à leurs pratiques.
On garde une certaine distance, mais qui est pas uniquement par rapport à la mise à mort. Et c'est justement le point sur lequel je ne suis pas encore clair.
L'anthropologue Charles Stepanov va nous aider à prolonger cette réflexion, à l'enrichir aussi. Cette réflexion qu'on essaye d'avoir autour des rapports que les humains entretiennent avec les animaux, ces liens qui oscillent entre affect, violence, prédation, empathie, et Charles Stepanov va nous en dire beaucoup sur ces tensions-là.
C'est ce qui fait la complexité, l'intérêt de nos relations avec les animaux dans le monde du pastoralisme. C'est que c'est riche, hein. D'un côté, il peut y avoir des relations d'affection qui sont fortes, des liens qui peuvent se nouer, des liens d'adoption un peu. Il arrive qu'un agneau ne soit pas allaité par sa mère, et dans ce cas-là, ça va être aux humains de se substituer à la mère, éventuellement biberonner, ça se fait. Et finalement, l'agneau, il a un statut qui est celui du chat ou du chien. Il a un statut semblable à celui de l'animal de compagnie. Mais il y a aussi un rapport de production à ces animaux. On n'est pas uniquement dans le fait de les traiter comme des enfants. On obtient aussi de la nourriture, le lait, les fromages, la viande, autrefois le suif, l'éclairage aussi venait des moutons. Et donc, c'est un ensemble d'usages instrumentaux avec une part, pour ça il faut les traire, les exploiter, les tuer évidemment pour prendre la viande ou le cuir. Donc en fait, à travers un troupeau, on peut avoir des relations très diverses avec les animaux.
Du coup, oui, il y avait une bergère qui disait, je me souviens, elle disait qu'elle avait le sentiment de les protéger.
Si on regarde les conceptions paysannes anciennes, dans les contes, les mythologies, c'est jamais les humains qui ont créé les moutons, qui ont créé le cheval, qui ont domestiqué. En fait, la notion même de domestication n'existe pas. C'est quelque chose qui est reçu, en fait, par un accord entre les animaux et les humains. Quelquefois, c'est un don du ciel, un don de Dieu, en faire lequel les humains doivent être reconnaissants. Donc, ils ont des obligations. Ils ont un contrat qui fait qu'ils n'ont pas tous les droits sur les animaux. y a un respect, une part de réciprocité. Donc, réciprocité dans quoi ? Dans le fait que les humains sont obligés d'adapter leur mode de vie, hein, de travailler, de suivre les troupeaux, comme le disaient les éleveurs hier. Ils doivent s'adapter au rythme des animaux, à la saisonnalité, par la transhumance, les grandes migrations, les nomadisations. Ils doivent les protéger contre les prédateurs, ils doivent les nourrir. Chacun, en fait, trouvait un intérêt dans cette association, dans ce mutualisme. Et donc ça, c'est une vision différente de juste une domination unilatérale de l'humain sur l'animal, qui est souvent la vision moderne.
L'agropastoralisme, c'est des paysages témoignant d'une activité vivante entre êtres vivants. L'agropastoralisme, c'est des activités économiques produisant du cuir, de la viande, du lait, de la laine. Aussi, les rendez-vous de l'agropastoralisme ont réuni différents acteurs et actrices de ces filières pour parler de leurs pratiques et de leurs enjeux, un croisement de regards à l'initiative du musée de Millau et des Grands Causses.
L'idée, c'est de nous, depuis l'intérieur du musée, et avec nos équipes, nos outils et nos cheminements, en fait, d'interroger cette collection à l'aune du temps présent pour pouvoir mettre à jour aussi nos données, pour repenser ce parcours, pour y intégrer des dimensions qui n'y sont pas abordées aujourd'hui. Donc ça nous paraissait très très important d'avoir un temps dédié à ce croisement de regards entre les différentes filières, mais aussi avec les institutions qui peuvent les accompagner sur les différents volets qui les qualifient. Et pour animer cette table ronde, donc, on a fait appel à Marie-Odile Nozière-Petit, qui était ingénieure de recherche en zootechnie à l'INRAE de Montpellier.
Ce qu'on a imaginé avec Katia, c'est que on rassemble les personnes qui ont un regard sur les différentes productions qui sont issues du territoire dans lequel est inscrit Millau et qui sont imbriquées avec la production de cuir et de peau qui est mise à l'honneur dans l'expo du musée. Donc je vais appeler l'ensemble des partenaires qui sont présents et qui vont représenter leur production. Hein. Donc il y a Jérôme Faramond pour l'AOP Roquefort et Thomas Parenti pour la production laitière dite hors bassin. Geoffroy Talp, c'est ça, pour les aspects cuirs et peaux et de la Maison Richard. Julien Volpelier pour la partie viande chez Unicor. Patrick qui nous présentera la partie laine. On avait imaginé quelque chose où chacun présente un peu sa production, les enjeux autour des produits qui sont les vôtres et aussi du lien à l'amont et à l'organisation des élevages. Sur cette partie-là, vraiment l'organisation des filières, la contrainte que ça peut représenter de mettre en marché des produits qui ont des caractéristiques particulières et qui du coup organisent l'élevage de tel ou tel principe. Et puis ensuite, on a une deuxième partie d'échange où là, on est plutôt sur quel ancrage au territoire et qu'est-ce que ça veut dire en fait pour la durabilité des territoires que de produire ce type de produit. Donc le lien vraiment très franchement aval-amont, je le place comme ça.
Les échanges et débats entre les producteurs de Roquefort, de laine, de viande, mais aussi avec le parc régional des Grands Causses et l'entente Causses et Cévennes, ont donné lieu à de riches débats, échanges et témoignages, révélant des enjeux complexes, mais assez passionnants aussi. Sophia recueille à chaud le sentiment de Katia Fersing, directrice du MUMIG, et de Marie-Odile Nozière-Petit, qui animait la table ronde.
À votre avis, quel est du côté des filières, quel est le désir de faire évoluer les pratiques au vu des enjeux actuels qui ont été évoqués?
Ce qu'on a bien vu aujourd'hui, c'est que en fait, c'est pas si simple parce que il y a quand même un certain nombre d'enjeux colossaux, en fait, qui soient bien sûr des attentes de nos consommateurs, mais aussi des enjeux de marché, des enjeux d'environnement qui sont très présents, et que en fait, organiser une transition plus forte. Ça se fait pas en un claquement de doigts et que voilà, c'est en dehors de l'envie de le faire, il s'agit aussi d'y aller pas à pas pour faire vraiment changer les choses, quoi.
Ouais, il va falloir digérer un peu tout ce qui a pu se dire, tout ce qui a pu être voilà, mis en lumière. Il va falloir aussi partager ça avec l'équipe du musée, du site archéo. Et il va falloir voir comment on en extrait la substantifique moelle pour, voilà, pour repenser justement les discours qu'on peut nous avoir vis-à-vis de ces questions et de la filière cuirs et peaux, et au-delà de la filière cuirs et peaux, des filières agro-pastorales. Donc moi, il y a une matière incroyable là à travailler et ensuite à mettre en forme d'un point de vue aussi muséographique pour traduire cette complexité en fait, parce que c'est ça l'idée, c'est vraiment d'amener les visiteurs à plonger dans ces écosystèmes avec tout ce que ça suppose de questions, de doutes, de réflexions, et en mettant en perspective tout ça. Et puis aussi penser différents niveaux de discours pour que ça puisse aussi parler aux plus jeunes, aux plus ou moins intéressés, aux gens très intéressés. Enfin, il faut arriver à, du coup, derrière à déployer voilà, un ensemble de strates de compréhension de tout ça. Mais c'est extrêmement riche. Mais évidemment qu'il faut qu'on continue à écrire tous ensemble là, cette histoire aussi collective. En tout cas, moi, j'ai bien envie que nous, au musée, on fasse partie de l'écriture de ce récit, d'une manière ou d'une autre, depuis l'endroit où on est et avec voilà, les outils qu'on a à mettre à disposition. Ouais.
Nous conclurons avec la définition de l'agropastoralisme de Charles Stepanov.
Comment définir le pastoralisme ? C'est un mode de vie qui est fondé sur une association avec des troupeaux. On est dans quelque chose de longue durée, de plurigénérationnel, qui engage tout un collectif humain sur des millénaires, en fait. Ça implique des apprentissages réciproques, donc une forme de pacte, en fait, une alliance entre les troupeaux et les humains, avec des apprentissages, des adaptations, des codes, une forme de pidgin transespèce qui va s'incarner dans le paysage. Un pacte, donc, un pacte à trois. Le pastoralisme, dans la longue durée, sur des millénaires, il a un impact, il transforme les paysages, qui a une valeur patrimoniale extrêmement riche à ces paysages pastoraux ouverts, qui enregistrent en fait donc cette alliance pastorale. C'est un paysage co-construit comme habitat partagé. Je trouve que c'est quelque chose qu'on voyait bien dans le film Être vivant, dans le début du film. Les éleveurs nous parlaient du fait qu'ils apprennent auprès des animaux, des troupeaux. Ils apprennent à percevoir aussi le paysage du point de vue des animaux. Et puis, au moment de la transhumance, c'est le moment particulier où on doit s'adapter entièrement au rythme des troupeaux. Donc, il y a cet aspect temporel qui est très important, l'aspect spatial aussi. En fait, c'est un espace-temps particulier, un espace-temps hybridé, le pastoralisme, avec des aspects humains et des aspects animaux.
Ça, c'est une analyse, hein, mais en tout premier... Ouais, j'adore le bruit des cloches et l'odeur des brebis.
C'était les rendez-vous des filières agropastorales, organisés par le MUBIG, en lien avec l'exposition épidermique des causses au Gand, avec le film Être vivant d'Hélène Pinault et Valérie Boignol. La conférence Nos liens avec les animaux entre affect et violence par Charles Stepanov. Et une table ronde autour des filières agropastorales. Vous pouvez écouter l'intégralité de la conférence et de la table ronde sur radiolarzac.org.